Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait la grâce de voir ce jour, Seigneur, de voir cette année, Seigneur, qui commence. Et nous voulons commencer cette année, Seigneur, en te mettant à la première place, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ta parole, merci pour la foi. Merci pour ton esprit qui nous éclaire aussi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Que ton esprit puisse, Seigneur, nous parler. Et que la chair puisse s'effacer au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaumes, au chapitre 37. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà ce que dit David. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et lorsque David parle ainsi, David a vécu des expériences avec Dieu. Et c'est du haut de ces expériences qu'il a vécues qu'il nous parle aussi. Il se parle à lui, mais il nous parle aussi à nous. Il nous exhorte, il nous dit, mettons notre confiance en Dieu, recommandons notre sort, en quelque sorte, confions nos problèmes, les problèmes que nous avons, confions-les à Dieu et Dieu agira certainement, il agira. Et la difficulté, c'est que nous ne savons pas comment Dieu va agir et c'est ça, bien souvent, qui est pour nous un blocage parce que nous imaginons, nous pensons que nos problèmes sont trop grands. Nos problèmes sont insurmontables, nos problèmes sont insupportables, mais ils deviennent trop grands lorsque nous voulons les porter tout seuls, lorsque nous voulons les résoudre tout seuls. Je me rappelle du témoignage d'un frère qui disait qu'il avait au fond de lui un souci par rapport à sa mère. Et le souci grandissait, et plus il y pensait, le souci grandissait. Et en réalité, le Seigneur a révélé à ce frère qu'il portait mal le fardeau qu'il avait par rapport aux soucis de sa mère. Peut-être que c'était une question financière, une question d'un autre ordre. Mais le fait de porter ce fardeau, parce qu'on a l'amour pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos mères, il y a un amour qui est fort. Mais lorsqu'on se sent incapable, impuissant de résoudre les problèmes, lorsque quelqu'un t'appelle pour te dire « voilà ma situation », eh ben, on aimerait bien faire quelque chose, mais on n'a pas les moyens ou on n'a pas la possibilité. Et on se sent incapable. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh ben, vu qu'on est incapable, il y a comme un dégoût. Il y a comme une aigreur au fond de nous-mêmes. On veut faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. En réalité, c'est parce que le fardeau est soit trop lourd ou soit nous le portons mal. Nous voulons gérer les choses en fonction de notre raisonnement. On se dit, je ferai A plus B, ainsi j'apporterai la solution. Et lorsqu'on se rend compte que A plus B ne marche pas, eh ben, on est triste. Et parfois, ça peut nous amener même à perdre la joie, la paix vis-à-vis du Seigneur, de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur parce qu'on a une situation qui nous dérange. En réalité, c'est parce que le fardeau que nous avons, nous le portons mal. Et la Bible déclare, David dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. En quelque sorte, confie ton problème à Dieu et Dieu prendra soin de cela. Et c'est ce qui est écrit aussi dans 1 Pierre 5, 7, où l'apôtre nous dit, recommande, nous pouvons le lire, 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça rejoint un petit peu l'idée de David. Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, qui l'Éternel, Dieu, prend soin de vous. C'est cela. Mais lorsque nous portons les fardeaux, lorsque nous portons les soucis, lorsque nous voulons les résoudre tout seuls, lorsque nous cherchons des solutions auprès des hommes, auprès de ceux qu'on aurait espéré nous aider et que ça ne marche pas, bah là, les soucis deviennent pesants. Et Jésus lui-même le dit dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, chargés par les... » Ça peut être le péché, chargés par les soucis, par les problèmes, par les épreuves qu'on essaie de résoudre tout seul, alors que la solution est là. La solution est tellement simple. La solution est devant nous. La solution, c'est de dire au Seigneur, « Seigneur, voici mon problème. Mon problème me dépasse. Mon problème est plus fort que moi. Seigneur, ça fait 5 ans que je prie pour la conversion de mon mari. 5 ans que je prie pour la conversion de ma femme. Seigneur, ça fait autant d'années que je prie pour les études de mes enfants. » C'est ça que Dieu attend de nous. Mais lorsque on essaye de faire, on se dit, bon, j'ai fait de bonnes études, donc mes enfants feront aussi de bonnes études. Donc je sais comment faire pour arriver à ce qu'ils font ces bonnes études. Eh ben, on pourra prendre des précepteurs, on pourra prendre faire des cours de soutien. Mais tout cela, si Dieu n'est pas là-dedans, eh ben, ça sera l'échec. Et qu'est-ce qui arrive après? Eh ben, on est triste, on se dit, mais je ne comprends pas. Mais pourtant, J'ai quand même prié, mais pourtant, j'ai quand même dit au Seigneur, en réalité, on n'a pas donné le souci, on n'a pas confié. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est « Confions nos problèmes à Dieu ». Confions nos vies, confions nos problèmes, tout ce qui est à nous, confions cela à Dieu. Et dans le dictionnaire, lorsqu'on voit la définition du mot « confier », c'est donner quelque chose à une personne de confiance, une personne qu'on sait qu'il pourra bien gérer cette chose. Lorsqu'on dit « nous confions nos enfants à un proche ou nous confions nos enfants à l'école », c'est puisque nous estimons que ceux qui travaillent dans l'école sont assez matures, ont les connaissances nécessaires pour prendre soin de nos enfants. Sinon, dans ce cas-là, on ne le ferait pas. Se confier en quelqu'un, c'est se dire « ce que je veux dire à cette personne, je sais que je peux lui dire, je sais qu'il peut m'apporter quelque chose, mais surtout, je sais que c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est sûr. » Voilà. On ne peut pas se confier en n'importe qui. Et là, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Comme je disais tout à l'heure, l'homme a ses propres ressources. Plutôt que de dire son problème à Dieu, il va chercher à se battre tout seul. Il va chercher à trouver des solutions par lui-même. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous perdons du temps. Et en perdant du temps, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous ne sommes plus en bonne communion avec Dieu, puisque nous attendons quelque chose de Dieu et que nous ne le voyons pas, notre foi en prend un coup. Et ça, c'est grave. Nous lisons Matthieu au chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Il s'agit de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Voilà la question que posent les disciples. Jésus est avec ses disciples et il leur dit, allons de l'autre côté, traversons la rive. Et voilà qu'en pleine mer, il y a une tempête qui survient. Même si ce n'est pas écrit, on peut imaginer que ces gens se sont dit, ce n'est pas la peine de déranger le maître parce que cette situation, on peut la régler tout seul. Ce n'est pas la peine de déranger le maître pour un petit problème comme ça. Le problème était petit, Mais lorsque nous lisons le même texte, ou je ne sais pas si c'est écrit dans ce texte, où c'est dit que l'eau commençait à rentrer dans la barque, là, la situation devenait dangereuse. Ils se sont dit au début, ce n'est rien, on va arriver tout seul. Pourquoi déranger le maître pour ça? Alors qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que c'est l'attitude de l'homme, de manière générale vis-à-vis de Dieu. On se dit, il y a des choses que je peux gérer. Il y a des choses avec mon intelligence, comme on nous dit souvent, l'homme a ses propres ressources, il a son intelligence, il a ses raisonnements, il a sa logique. Eh bien, il s'est dit, avec sa logique, avec ses raisonnements, puisque j'ai fait autrefois, ça a marché de telle ou telle manière, ou que ça n'a pas marché, mais que j'ai retenu les leçons avec l'expérience de mon échec, eh bien, je ferai comme ça pour que ça marche. Eh bien, c'est ce que les disciples ont voulu faire là, mais là, c'était une tempête, c'était la nature. Et on voit aujourd'hui que l'homme, malgré tout ce qu'il peut, avec la météo, les prévisions, tout cela, eh bien, l'homme n'empêche pas les catastrophes. Même si on peut les prévoir, mais qui peut empêcher les dégâts? Personne. Personne. Et ils se souviennent, ils se disent, mais le maître est là. Alors pourquoi souffrir autant alors que le maître est là? Et là, ils vont dire au maître, Seigneur, regarde, nous périssons, il y a la tempête. Et le Seigneur vient, il parle, la tempête se calme. Alors que lorsque la tempête s'est manifestée, s'ils avaient tout de suite la présence d'esprit de se dire, ah ben pourquoi souffrir autant alors que Jésus est là? Jésus peut nous aider. Tel qu'ils ont voulu faire, c'est ce que nous faisons aussi. Et malheureusement, les fardeaux montent, ça monte, ça monte, ça monte. Et la charge devient trop lourde. Et qu'est-ce que se passe? Certains abandonnent. Ils disent, non, c'est trop pour moi. Le Seigneur m'a déçu. Il y a des gens qui disent cela. On m'a dit, convertis-toi, viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela. On m'a dit ceci. En réalité, c'est tout simplement un refus de se soumettre à Dieu, de se confier, de confier sa vie au Seigneur. David dit, recommande ton sort. Confions-nous en l'Éternel. Confions nos problèmes. Qu'est-ce qui nous dérange? Eh bien, ce qui nous dérange, Dieu veut utiliser ça pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Comment? En nous confiant en lui, par la prière. Voilà pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières, c'est cela. Parfois, Dieu permet des situations dans nos vies pour qu'on puisse voir sa gloire. Mais comment voir sa gloire? C'est en nous confiant, en disant, Seigneur, regarde cette situation. On se rappelle de l'histoire d'Anne. Et je pense qu'on en a déjà parlé. La Bible dit que Dieu a rendu stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Et Anne allait tous les jours, elle priait. Elle parlait, elle se lamentait auprès de Dieu. À tel point que le sacrificateur qui était là lui dit, mais tu es ivre, fais passer ton vin. Elle dit, non, mon Seigneur, j'exprime tout simplement le chagrin que j'ai. Et le Seigneur a permis cette situation pour que Anne puisse aller en profondeur avec lui. C'est Dieu qui l'avait rendu comme ça, mais avec un objectif. L'objectif, c'était que Anne puisse se confier en lui, qu'elle puisse aller sortir de la superficialité, tout simplement du fait qu'elle veuille un enfant, puisque c'est une femme. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu a voulu l'emmener encore plus loin. Mais comment l'emmener plus loin? C'est en la rendant stérile. Anne ne s'est pas découragée. Elle a continué à chercher le Seigneur, à se confier, à dire son problème à Dieu, jusqu'à faire la prière que Dieu attendait en disant, Seigneur, autrefois je demandais peut-être un fils pour moi, maintenant Seigneur, je te le demande pour ta gloire, pour te le confier. Voilà. Et là, Dieu a agréé cette prière et Dieu a agi. Quelquefois dans nos vies, Dieu permet qu'il y ait des situations pour que nous puissions nous confier en lui. Et nous allons voir un ou deux exemples. Nous allons voir un ou deux exemples qui nous montrent que Dieu permet parfois des situations pour que nous puissions nous confier en lui. Puisque l'homme, lorsqu'il résout ses problèmes, l'homme, avec, comme on l'a dit, les ressources qu'il a, il pense qu'il est fort, il pense qu'il est tout puissant, il pense, on se dit, mais à quoi bon? pour une simple fièvre. Il suffit de prendre un Doliprane et puis c'est fini. Or, on voit dans la Bible que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre qui avait une simple fièvre. Donc, c'est pour nous montrer que Dieu s'occupe de nous dans tous les domaines, même une fièvre. Jésus, là, on vient de lire qu'une tempête, il a calmé. Mais même la fièvre, Jésus a manifesté la même puissance. C'est la même puissance qu'il a manifestée. Alors, l'exhortation, c'est de nous dire, confions nos problèmes à l'Éternel. Le diable va nous dire, regarde, ça fait combien de temps que tu attends? Mais regarde, la situation ne change pas. Ce sont des mensonges. Confions-nous en l'Éternel. Regardons à notre Dieu. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques 20. À partir du verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sassan-Tamar qui est en Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Voici, maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et elle ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit, au milieu de l'assemblée, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja, fils de Jehiel, fils de Manatia, de Matania, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. On peut s'arrêter là. Voilà que Juda et Israël est attaqué par les Moabites et les autres peuples. Et Josaphat est au courant de ce complot qui est fait. Et il prie, il rassemble tout le peuple d'Israël avec lui, et il prie. Il dit à Dieu, Éternel, toi qui as promis à nos pères que tu serais fidèle, même quand l'ennemi viendrait, que tu délivrerais. Tu as été fidèle, et voilà qu'aujourd'hui, les gens qui autrefois n'ont pas été détruits par nos pères, viennent nous remercier en nous faisant aussi la guerre pour nous chasser du pays que tu nous as établi. Et il fait cette prière, il dit, Éternel, nos yeux sont sur toi, car nous sommes sans force. Et la Bible dit que Dieu parle par le prophète en disant, n'ayez crainte, n'ayez peur. Revenez demain et vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder, car ce ne serait pas vous qui combattrez, mais l'Éternel lui-même combattra pour vous. C'est un point important. Lorsque nous confions nos problèmes à Dieu, à l'Éternel, ce ne sont plus nos problèmes, ça devient les problèmes de Dieu. C'est cela. Puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque nous l'appartenons, puisque notre vie lui appartient, quand nous confions nos problèmes à Dieu, Dieu s'en charge. On se souvient de l'histoire dans Luc 18 de cette femme qui avait affaire au juge inique. Et il est écrit que ce juge n'avait d'égard pour personne. Et cette femme allait tous les jours pour demander justice. Un jour, le juge a décidé de prendre à bras le corps le problème de cette femme. Il s'est dit, puisqu'elle m'importune, puisqu'elle me dérange, eh ben moi, je m'occuperai de son affaire. Et Jésus nous dit plus bas, il nous dit, mais regardez, si cet homme qui est un mauvais, qui n'a d'égard pour personne, qui fait sûrement du mal, eh ben, arrive à prendre le problème de cette femme pour en faire le sien, eh ben, à combien de plus forte raison notre Père qui est dans les cieux? C'est cela. Alors lorsque nous réalisons cela, eh ben, qu'est-ce qui peut nous empêcher de confier nos problèmes à notre Dieu? Puisque nous savons que lorsque nous nous confions nos problèmes, étant sincères, eh ben, ce n'est plus nos problèmes, c'est le problème de Dieu. On se rappelle aussi une histoire similaire avec Ézéchias. Lorsque Ézéchias apprend que Sanchérib vient attaquer Juda, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il dit, Dieu, regarde. Voilà que Sanchérib nous écrit une lettre. Non seulement il se moque de nous, mais il se moque aussi de toi. Ézéchias réunit Juda. Il encourage tous les anciens du peuple. Et il leur dit la même phrase. Il leur dit, n'ayez pas peur, parce que ce ne serait pas vous qui combattrez, mais en réalité, c'est le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu. Dieu lui-même fera justice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis une embuscade et ces gens se sont détruits eux-mêmes. C'est cela. Lorsque nous confions nos problèmes à Dieu, nos problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu ne se renie pas, Dieu ne ment pas, Dieu agit. Et même s'il n'agit pas, il a quelque chose à nous enseigner. Alors, plutôt que de nous plaindre, de nous dire, mais je n'ai pas vu ça, disons alors, Seigneur, j'ai prié pour obtenir ceci, je n'ai pas eu, alors aide-moi, qu'est-ce que je n'ai pas compris, ou qu'est-ce que j'ai mal demandé, est-ce que j'ai mal demandé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Et là, Josaphat fait cette prière, il dit, Seigneur, nos yeux sont sur toi, car nous sommes sans force. On a dit un point, c'est que notre problème devient le problème de Dieu. Et quand on sait que ça devient le problème de Dieu, ça nous enlève un poids. Ça nous enlève la charge qu'on porte sur nous. Puisque maintenant on se dit, bon, moi j'ai tout remis. C'est comme quand on fait un examen, on se rappelle lorsqu'on était à la fac. Quand tu remets ta copie, même si ça a été dur, mais quand tu remets ta copie, c'est comme s'il y a un poids, quoi. Tu dis, bon, maintenant, mon sort est entre les mains du correcteur. Voilà. C'est cela. Puisqu'on sait que maintenant, c'est son affaire à lui. C'est son affaire à lui. C'est lui qui va faire. Et un autre point que Josaphat nous dit ici, lorsque nous nous confions en l'Éternel, ça veut dire quoi? Nous reconnaissons que nous sommes petits. Nous reconnaissons que nous sommes sans force. Et c'est ça même la prière. La prière, c'est non seulement parler à Dieu, mais la prière, c'est aussi un moyen qui montre aussi notre humilité vis-à-vis de Dieu. On reconnaît qu'on a besoin de Dieu. Et quelquefois, nous avons du mal à nous confier nos problèmes au Seigneur, puisque nous avons encore notre propre orgueil, nous avons encore nos propres ressources, nous avons encore nos propres solutions à nous. Et comme on a dit, parfois on va traîner, mais on perd le temps. Et voilà la prière que Josaphat dit. Il dit, Seigneur, là, nous sommes sans force. Donc, en quelque sorte, il n'y a que toi qui puisses agir pour nous délivrer dans cette situation. Comme les disciples se sont souvenus en disant, Maître, regarde la tempête. Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Le Seigneur veut que nous puissions confier tout ce que nous avons, les problèmes, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous dérange, que cela nous amène à nous humilier, à dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, comme on a vu hier, avec Bartimée qui a crié, et il est écrit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le salut, enseignement de base, c'est non seulement le fait d'avoir la vie éternelle, de vivre éternellement avec notre Seigneur, mais le salut, c'est aussi la délivrance. La délivrance, c'est des réponses à nos problèmes, des solutions à nos blocages dans la vie de tous les jours en tant que chrétien, c'est cela. Ce verset ne s'adresse pas seulement aux païens lorsqu'on dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Non, il s'adresse à tout humain, tout humain. Donc le païen aussi, même s'il crie à Dieu, Dieu peut se révéler à lui. Et pour nous, chrétiens, lorsque nous crions à Dieu, eh bien, Dieu ouvre les portes. Là où il y avait des blocages, Dieu ouvre les portes. Mais encore faut-il que nous puissions nous confier en lui. Dire, Seigneur, voici mon problème. Josaphat n'est pas passé par quatre chemins. Il n'a pas fait une poésie à Dieu. Non, il a dit, regarde, les ennemis sont là. Ils vont nous détruire. Seigneur, nous sommes sans force. Aide-nous. Et Dieu a manifesté sa gloire. Et c'est ça que les prières que Moïse a fait aussi, lorsque le peuple tourmenté. Nous voulons l'eau, nous voulons ceci, nous voulons la viande qu'on mangeait autrefois en Égypte. Eh bien, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse lève les mains et dit, Seigneur, regarde le peuple. Regarde ce qu'il demande. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions confier nos problèmes. Dire, Seigneur, voici ce qui me tracasse. Mettre notre orgueil de côté, nos raisonnements de côté. Parfois, le raisonnement va te dire, mais pour ça, tu ne vas pas quand même prier. Refusons ces faux raisonnements-là. Je témoigne souvent lorsque, parfois, nous sortons avec les enfants et souvent, lorsqu'on cherche une place de parking, il y a un des enfants qui prie, qui dit, Jésus, aide-nous à trouver une place. Pourtant, nous, les parents, on voit qu'il n'y a pas de place. Donc, humainement, on se dit, mais là, c'est compliqué. Mais l'enfant, voilà, tout candide, dit, bon, Jésus, aide-nous à trouver une place. Et généralement, en tout cas, 90%, une place se libère. Alors, c'est peut-être une petite anecdote qui est peut-être insignifiante pour beaucoup, mais en tout cas, nous, on comprend que c'est la prière qui a agi. Donc Dieu nous enseigne, nous aussi, au travers des enfants, en disant, lorsque nous confions même les choses qui paraissent insignifiantes à Dieu, Dieu agit, c'est un clin d'œil. Maintenant, on peut dire, bon, c'est un concours de circonstances, c'est notre problème. Mais en tout cas, Dieu, lui, il est fidèle, comme on l'a lu. Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Alors parfois Dieu agit, soit nous refusons de reconnaître qu'il a agi, puisque nous attendions autre chose de peut-être spectaculaire, ou quelque chose de plus grand encore que nous attendions, mais pourtant il a déjà agi. Alors le Seigneur nous dit, confions nos problèmes. Il n'y a pas de problème qui soit petit pour Dieu. Il n'y a pas de problème qui soit trop grand pour Dieu. C'est nous-mêmes qui nous mettons nos raisonnements, nos blocages dans nos têtes. Et Dieu nous dit non. Quelle que soit la situation, Dieu est tout-puissant, il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alors pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre du temps? On se rappelle. Dans Luc 8, l'histoire de cette femme, avec la perte de sang, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Elle a tout dépensé, mais elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher Jésus, eh bien mon problème sera résolu. C'est cela, confier nos problèmes en Dieu en se disant, Seigneur, j'ai peut-être essayé ailleurs. Et ta parole elle-même le dit, maudit quiconque se confie dans l'homme et prend la chair pour appui. Je me suis confié en moi-même, je me suis confié à un tel, pensant trouver la solution. Mais finalement, Seigneur, je comprends que la solution, c'est toi-même. La solution, elle est auprès de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faille pas se confier aux hommes. Non, on se confie aux hommes, mais en s'attendant à Dieu, donc même si une réponse, une solution vient à travers la bouche d'un homme, mais nous, nous considérons que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a donné la solution. C'est cela. On considère que la solution vient de Dieu. Et voilà cette femme qui se disait, bon, avec l'argent que j'ai, avec les moyens que j'ai, les médecins de renom, eh ben, j'aurai la solution. Eh ben, elle a tourné en rond. On se rappelle Luc au chapitre 9, le père avec le fils épileptique. Lorsqu'il vient voir Jésus, qu'est-ce qu'il vient lui dire? Il lui dit, maître, on a essayé, tes disciples n'ont pas pu délivrer mon enfant. Jésus lui dit, je vais agir. Il dit, oui, si tu peux. Je sais que tu peux, mais aide-moi parce que je reste encore incrédule. J'ai du mal à croire que tu puisses faire quelque chose. En réalité, cet homme, il croyait en Dieu parce qu'il le dit. Mais devant la situation qui était tellement dure parce que les disciples n'ont pas réussi, il s'est dit, mais là, c'est fini, il n'y a plus de solution. Mais je pense que cet homme s'attendait à ce que les disciples fassent quelque chose. Et voilà que Dieu a permis qu'il y ait un échec. Pourquoi? Pour qu'il ait affaire à Jésus lui-même. Voilà. Et parfois, Dieu fera la même chose aussi dans nos vies. Dieu est bon. Dieu agit. Dieu nous bénit. Il n'y a pas de problème. Dieu a accompli sa parole. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Lorsque nous venons ensemble, nous nous réunissons. Dieu nous bénit tous. Maintenant, il y a des choses que Dieu va vouloir qu'on soit en relation personnel avec lui, en relation entre guillemets privilégiée avec lui. C'est personnel. Et ça a été le cas de cet homme, ça a été le cas de cette femme avec la perte de sang. Il y avait une foule. Mais elle, elle est venue non plus dans l'esprit de la foule, elle est venue parce qu'elle avait son problème. Elle s'est dit non, moi, mon problème, il faut que je le confie à Jésus. Voilà. Et ce père, peut-être que si les disciples avaient réussi à délivrer son enfant, il serait parti même sans faire cas de Jésus. Pourquoi avoir besoin de Jésus alors qu'il a eu la solution? Donc Dieu a permis qu'il y ait cet échec pour enseigner d'abord aux disciples, parce que Jésus lui-même le dit, que Dieu a permis cela pour que les disciples puissent comprendre que eh ben, la prière, il y a des combats, il y a des niveaux différents. Parfois, il faut jeûner pour chercher des esprits. Ça, c'est l'enseignement des disciples. Mais l'enseignement de cet homme aussi, c'est de dire, ah, le problème, c'est que tu as affaire à Jésus. Voilà. Maudit quiconque se confie dans l'homme. Comprends que la solution, elle vient de Dieu, de notre Seigneur. Alors, confions-nous à l'Éternel. Amen. Confions nos problèmes. Rien n'est trop grand. Mettons de côté l'orgueil. Toujours dans le même texte de Luc, Jaïrus qui est venu voir Jésus en prenant le risque, parce que Jaïrus, ce n'était pas n'importe qui. Mais en venant voir Jésus, il s'est humilié. Et il est venu, c'est écrit, se jetant aux pieds de Jésus en disant, maître, voilà, ma fille est mourante. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Mets en lui ta confiance, recommandant nos problèmes, comprenant que la vie chrétienne, c'est la marche avec le Seigneur. Et tous les jours, nous avons besoin de lui. Tous les jours, nous avons besoin de lui dire les choses, de lui dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, aide-moi à prier pour les méchants. Seigneur, aide-moi. Voilà, je prie pour la conversion d'un tel. Seigneur, aide-moi. Agis. Soutiens-moi. C'est ça que Dieu attend de nous tous les jours. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Il y a toutes sortes de résolutions que les humains prennent à l'occasion des nouvelles années. Et la plus belle recommandation, c'est ce que nous avons lu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est tellement simple. Il n'y a pas besoin de faire de régime. Comme je regardais aujourd'hui quelqu'un qui disait au journal, il disait « je ne prends plus de résolution parce que je n'arrive pas à les accomplir ». Donc finalement, bah, je laisse tomber parce que c'est trop dur. Un tel veut maigrir, un tel veut ceci, un tel, ça marche une semaine et après ça tombe à l'eau. Mais marcher avec le Seigneur, c'est tout simplement une question de choix en disant « Seigneur, je t'aime et je veux de toi, aide-moi ». C'est tout. C'est tout. En étant sincère. Et lui fera le reste, comme on l'a lu. Il agira. Donc nous, lorsque nous faisons notre part, de nous confier, de confier tout ce qui nous appartient, nos problèmes, nos soucis, les fardeaux que nous avons, eh bien, Dieu, lui, fera aussi sa part parce qu'il est fidèle. C'est tellement simple. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te disons merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous rappelles encore aujourd'hui que tu es là et tu es disponible, Seigneur, pour nous faire du bien tous les jours, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité jusqu'à aujourd'hui. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à te confier tous nos problèmes, Seigneur. Que l'orgueil, Seigneur, qui nous empêche de nous confier les problèmes que nous avons, que cet orgueil soit brisé, Seigneur. Seigneur, que nous puissions prendre exemple sur cette femme qui, malgré le problème qu'elle avait, qui l'exposait même à être indexée, a pris ce risque, Seigneur, de passer, Seigneur, par la foule, Seigneur. Puisqu'elle savait que c'est toi qui es la solution, Jésus. Seigneur, comme Jairus, qui a mis son honneur de côté pour voir ta gloire, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi, Seigneur, à nous confier tous nos problèmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire comme cette prière, comme Josaphat, Seigneur, que nous sommes sans force, que nous avons besoin de toi. Toi-même, Jésus, tu dis dans Jean 15, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre cela, Seigneur, tous les jours. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle année qui commence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tu ne nous délaisseras point. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, en ta fidélité. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.